Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Donc on voit qu'il y a eu une décélération, entre guillemets, de la hausse de l'épidémie.
C'est-à-dire qu'il circule moins vite, mais il circule quand même, et il circule malgré tout de plus en plus rapidement.
En même temps,
on a affaire à un virus qui est diabolique et qui est beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense.
Les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts.
J'ai dit en même temps.
Il est évidemment possible qu'on ne soit jamais reconfiné.
Je continuerai à utiliser en même temps.
En même temps. Eh bien, nous aussi, nous continuerons en même temps à enregistrer tout ça et à vous en parler. Parce que, évidemment, tout ça est là. Mais en attendant, on ne va pas rester que sur le Covid et le froid polaire. Oui, d'accord, il fait froid en hiver. Là, c'est terrible, évidemment. Avec le réchauffement climatique, on pensait déjà qu'on était au Sahara. Non, il faudra attendre un peu. Mais en attendant, on va vous parler de l'électricité. Et oui, pourquoi les prix montent? Pourquoi notre électricité coûte de plus en plus cher? Et vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons, c'est l'État qui a organisé tout ça. Et franchement, on en rirait si on n'avait pas à en pleurer. Et puis, on va parler d'une extraordinaire... Allez, c'est pas la lutte des classes en bourse, c'est pas la révolution à Wall Street, c'est pas Occupy Wall Street, mais quand même, les petits porteurs qui s'unissent pour faire, non pas écrouler encore, mais vaciller les hedge funds. Oui, les hedge funds, à des milliers, des milliards de dollars, eh bien, les petits porteurs peuvent s'organiser et bouger le monstre de la bourse de Wall Street. Comment ça se fait? Est-ce que ça peut arriver en France? On va en parler. Et puis, on va recevoir quelqu'un qui dit beaucoup de choses et qui a toujours pris des positions très cohérentes. C'est Olivier Marleix, qui est, comme vous le savez, député et député LR d'Eure-et-Loire et qui a reçu le prix éthique de l'association Anticor et qui a écrit Les Liquidateurs. C'est quoi? Eh bien, c'est le dépôt de bilan du pouvoir en place. Et c'est pas piqué des hannetons. À tout de suite!
Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Alors écoutez, on va parler de tout, comme vous a dit. On va juste un mot quand même sur l'Amérique. Vous savez qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le journal de Sud Radio l'a dit, s'ouvre le procès en destitution de Donald Trump. Ah bon? Alors j'ai écouté ça, je me suis dit, mais alors Donald Trump est toujours président, puisqu'il doit être destitué? Non. Eh bien écoutez, Donald Trump n'est plus président depuis près d'un mois, puisque Joe Biden a été institué dans ses fonctions le 20 janvier. Mais alors pourquoi un procès en destitution? C'est intéressant, quand même les Américains, eh bien, comme ils nous précèdent 10 ans avant, eh bien on va voir si nous, destituer Macron en 2025, et puis Sarkozy, on va le redestituer, et puis Hollande aussi, il n'y a pas de raison. Destituons. Vous savez, le poisson pourri par la tête, hein, y a de vrais problèmes. Mais auparavant, on va parler de quelque chose de plus précis en ces temps polaires, l'électricité. Dieu sait si on a besoin d'électricité. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les prix montent, les prix explosent, les prix de l'électricité explosent. Et pourquoi? Vous allez voir, c'est un scandale d'État quelque part, quand même.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Des éclairs. Et Pascal Obispo, c'est gentil parce que c'est pas monsieur 100 000 volts là, mais c'est doux, c'est soft. Et il était derrière hier à Sud Radio en live dans l'émission d'Ivan Cugius, Pascal Obispo. Alors c'est bien, c'est vrai, l'électricité, c'est bien, mais quand on apprend ceci, écoutez un extrait de France 2 qui date du 2 février dernier. Écoutez.
Depuis le début de l'ouverture à la concurrence, l'indice des prix pour l'électricité a augmenté de 60,36%. Concrètement, un client moyen au tarif de base dépensait 319 € par an en 2006, 501 € en 2020. Pourquoi une telle hausse au fil des ans? Un effet pervers s'est installé, souligné par l'autorité de la concurrence en 2019.
Les tarifs ont pour but de permettre aux concurrents d'EDF de proposer des prix égaux ou inférieurs aux tarifs réglementés de vente.
Pour faire de la place aux 33 fournisseurs alternatifs, les pouvoirs publics ont augmenté plus que nécessaire les tarifs régulés.
Alors voilà. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Alors EDF, écoutez, ça marchait très bien. Et puis, on a créé de la concurrence. C'est ça qui est formidable. Hein. Bien sûr, on est pour la... Mais quand ça marche, quand un monopole marche, pourquoi la concurrence ? Et juste avant d'en parler avec Anne de Bréjas, qui est ingénieure chercheuse à Électricité de France, qui est porte-parole de la Fédération Sud Énergie, et qui va nous expliquer tout cela, mais auparavant... Je voudrais juste vous lire un petit extrait du livre d'Olivier Marleix que nous allons recevoir bientôt, tout à l'heure, hein, ici dans notre émission, qui s'appelle « Les liquidateurs », le livre, et voici ce qu'il dit. Là, on a fait la scission d'EDF. Alors, on rappelle, l'électricien français, faut-il le rappeler, la plus importante entreprise du patrimoine commun des Français, la plus importante, détenue à 80% par l'État et valorisée 32 milliards. Certes, EDF est endettée et a encore devant elle un mur d'investissement avec l'obligation d'assumer un grand carénage et ses centrales nucléaires, dont la facture est attendue autour de 100 milliards, mais EDF a des atouts inestimables. Ce même parc nucléaire qui fait d'elle le deuxième producteur d'électricité au monde. La France, deuxième producteur d'électricité au monde. Un savoir-faire pour l'avenir avec la technologie EPR, les barrages hydroélectriques, capacité de stockage d'énergie sans pareil, un savoir-faire en matière de services assurés à travers Enedis, qui est aujourd'hui largement bénéficiaire à plus d'un milliard d'euros par an. EDF, c'est l'indépendance énergétique de la France, rappelle Olivier Marleix, et l'unique, je répète et je souligne, l'unique élément de compétitivité dont disposent nos entreprises sur leurs voisines allemandes, avec un coût d'énergie plus faible qu'ailleurs. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Emmanuel Macron a imaginé un étrange projet de scission d'EDF. D'un côté, un EDF bleu avec le nucléaire, demandeur de capitaux, qu'on a adossé à 100% à un État exsangue, et de l'autre, un EDF vert avec l'énergie renouvelable et Enedis qu'on ouvrait au marché. D'un côté, la mutualisation des pertes, de l'autre, la privatisation des profits. Alors, une idée de toute évidence née en dehors de l'entreprise, c'est pas EDF qui a pensé à ça, ressemblant davantage à un rêve de banquier d'affaires qu'à un schéma industriel. C'est-à-dire qu'on a posé notre propre concurrence dans quelque chose qui marchait quand même, on l'a vu assez formidablement. Eh bien voilà, il faut que les tarifs... Alors justement, Anne de Bréjas, expliquez-nous comment ça s'est passé tout ça. Parce que, quoi, on fait des tarifs élevés pour qu'il y ait la concurrence et que les concurrencés soient au niveau. Bonjour, vous êtes, je rappelle Anne de Bréjas que vous êtes ingénieure chercheuse à EDF et porte-parole de la Fédération Sud Énergie. Qu'est-ce qui se passe là encore ? On voudrait qu'éclaircissez-nous.
Oui, c'est vrai que ce qui se passe dans le système électrique, je dois dire que ça dépasse l'entendement. Alors effectivement, on a des tarifs réglementés de vente, plus connus sous le nom de tarifs bleus, oui. Base ou heure-creuse heure pleine. Donc avant, ces tarifs, ils étaient calculés pour couvrir les coûts du système électrique pour rembourser les investissements.
Oui.
Et c'était les mêmes pour tout le monde. Oui. En 2015, alors, on a créé une concurrence. Effectivement, EDF était avant monopole public et ça se passait plutôt très bien. C'était l'entreprise préférée des Français. Chacun, la qualité de service était reconnue par tous, y compris par ceux qui poussaient l'ouverture des marchés ailleurs. Et puis, donc, on a ouvert ce secteur à la concurrence suite à une directive européenne en 1996.
Ah oui, c'est, c'est l'Europe qui a décidé.
C'est l'Europe, ça, absolument, oui. Ouais. Mmh. C'est l'Europe en 1996 et ça a été décliné dans le droit français à partir de 2000. Donc, maintenant, on a à peu près 20 ans de recul, donc progressivement.
D'accord.
Donc, vous l'avez dit, le bilan est mauvais sur toute la ligne, à commencer par la promesse initiale, c'était une promesse de baisse des prix. Maintenant, plus personne n'ose dire ça, hein, y compris ceux qui l'ont poussé au début,
ouais.
Puisque, comme vous l'avez dit, ça a pris 60% depuis le début. Et puis, quand on parle de concurrence, en fait, ce qui est vraiment en concurrence, c'est une activité qu'on a créée de manière artificielle, qu'on appelle la fourniture. Alors, les fournisseurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils achètent aux producteurs, EDF est encore à 80% de la production,
oui.
Ils font transporter automatiquement par le réseau et ils revendent. Donc, en fait, ils font rien qu'acheter et vendre.
Ah oui, c'est ça. Donc, évidemment, ce sont des intermédiaires qui se font des bénéfices, quoi.
Exactement. Alors, c'est vraiment pas comparable à d'autres secteurs, parce que dans d'autres secteurs, on pourrait dire le détaillant, au moins, il va choisir son produit, puis il livre jusqu'à chez le client. Mais en électricité, c'est pas ça du tout. Ça se fait complètement automatiquement par les lois de la physique. Donc, on a des fournisseurs qui ne font rien. Au début, maintenant, ils sont à peu près une cinquantaine. Et pour se faire de la place,
oui.
on leur a fait des passe-droits. Donc, effectivement, il y a eu ce changement de tarif réglementé. Donc, maintenant, Ils n'ont plus pour objectif de couvrir les coûts du système, mais comme vous l'avez dit, c'est un objectif qu'on appelle de contestabilité, c'est-à-dire qu'ils ont pour objectif d'être suffisamment haut pour permettre à un fournisseur alternatif, concurrent d'EDF, de proposer une offre moins chère. Donc, effectivement, l'autorité de la concurrence a dit, mais enfin, on n'a jamais vu ça dans aucun autre secteur. C'est-à-dire que même le fournisseur le moins efficace doit pouvoir proposer une offre. Et donc, les prix, la hausse de 60% depuis 2006, donc depuis l'ouverture des marchés des particuliers, elle n'est pas évidemment due qu'à la concurrence. Il y a des explications. Il a fallu investir, comme vous l'avez dit, dans le parc, dans les renouvelables. Mais en tout cas, en partie, et les dernières hausses notamment, sont liées exclusivement à cet objectif, parce que du coup, pour faire en sorte d'être plus élevé que les fournisseurs, on regarde comment les fournisseurs achètent leur énergie. Donc, en partie à l'ARENH, je vais revenir dessus, à un mécanisme qu'on appelle l'ARENH, et en partie au prix de marché. Et quand les prix de marché augmentent, la facture augmente, alors que les coûts n'ont pas augmenté.
Donc, alors, il y a eu presque
8 augmentations.
Oui, pardon. Anne de Bréjas, alors expliquez-moi, à quoi servent ces fournisseurs ? Franchement.
Ah bah, je vais vous dire très rapidement, à rien. À rien du tout, simplement à justifier la concurrence. C'est-à-dire que comme les réseaux, personne n'a encore osé mettre en concurrence plusieurs réseaux pour alimenter la même zone, c'est un monopole naturel.
Oui.
Comme la production, on ne va pas non plus s'amuser à construire plus de centrales qu'il ne faut pour mettre en concurrence les centrales nucléaires ou même les énergies renouvelables entre elles. On n'a pas les moyens de ça. Donc, on a créé un espace artificiel donc d'achat-vente. Aujourd'hui, c'est 4% des coûts du système. Et voilà pour ce qui justifie ça. Et alors, je pense que l'autre chose qui n'existe partout, nulle part ailleurs, c'est qu'on a permis à ces fournisseurs de s'approvisionner en dessous du coût de production auprès d'EDF. C'est-à-dire qu'EDF, donc c'est ça qu'on appelle le mécanisme de l'ARENH, qui est remis en cause par le
projet. C'est-à-dire qu'ils payent en dessous du prix, du marché, mais enfin de EDF, quoi, fixé par EDF.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu un coût de production défini, pas que par EDF, hein, ça a été contrôlé par la Cour des comptes, et on a dit, bon, ça coûte à peu près 42 euros du mégawattheure de produire de l'énergie nucléaire.
D'accord.
Déjà, ce prix n'a pas été réévalué depuis 2012, donc EDF dit c'est largement en dessous des coûts. Mais surtout, le fournisseur a le choix soit d'acheter à 42 euros, donc à prix coûtant, soit d'acheter sur le marché de gros, sur le marché d'électricité, quand le marché est en dessous. Sachant que le marché d'électricité, il est extrêmement volatile, donc il peut être très au-dessus de 42, à ce moment-là, le fournisseur achète à 42, ou en dessous, et dans ce cas-là, il achète en dessous, c'est ce qui s'est passé ces dernières années. Du coup, EDF est sûr de vendre à perte.
D'accord. C'est-à-dire,
aberrant.
Oui, non, mais c'est-à-dire que le fournisseur, lui, il achète en tout cas au mieux, enfin au plus haut et au plus cher pour lui à 42. Et sinon, si c'est moins cher. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, si ça marche, c'est pour le fournisseur. Si ça perd, c'est pour l'État. Enfin, pour nous. Quoi.
Voilà. C'est pour nous.
Si les bénéfices sont dans leur poche, les pertes, c'est pour le contribuable.
Voilà, il y en a qui disent pile je gagne, face tu perds.
Face tu perds, oui. Non, mais c'est étonnant, mais dites-moi, cette idée de mettre de la concurrence, donc elle vient de l'Europe, c'est ça ?
Oui, elle vient de l'Europe. Absolument.
Mais est-ce que c'est une directive, je veux dire, contraignante ? Parce qu'aucun gouvernement français, puisque vous dites que c'est depuis 96, ne s'est dit, attendez, qu'est-ce que c'est que cette aberration ? On a EDF, ça marche, bon, il y a les problèmes, il y a des investissements, il y a tout ce qu'on veut. Bah, enfin, Marlex l'a dit, et vous le savez encore mieux que moi, nous sommes second producteur du monde, mais d'où ça vient que personne ne réagit à ça ? Je veux dire, personne au pouvoir, qu'il soit de droite ou de gauche, quoi.
C'est les joies de cette construction européenne, mais effectivement, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que nous, on déroule les arguments qui disent, enfin, vous voyez bien, la promesse initiale, c'était la baisse des prix, ça ne fonctionne pas.
Ouais.
On n'arrive pas à investir non plus, on a des sous-investissements. On est face à une crise climatique et environnementale majeure. Tous les experts, le GIEC, rapport après rapport, dit il y a urgence, c'est maintenant qu'il faut investir, et massivement. Donc, il va falloir investir, qu'on choisisse de rester dans le nucléaire ou qu'on sorte du nucléaire. Dans tous les cas, il va falloir remplacer le parc de production dans les prochaines décennies. Il va falloir énormément investir sur le réseau parce que ça va évoluer. Et on est dans un état du système électrique qui n'est plus capable de faire ça, alors qu'à l'époque d'un système public, on a su développer des énormes barrages hydroélectriques, on a su développer un parc nucléaire, un parc thermique. On ne sait plus rien faire à cause de cette désorganisation. Et la seule réponse qu'on a face à ça, c'est pas nous, c'est l'Europe qui nous l'impose. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même dire, écoutez, soit c'est l'Europe qui nous l'impose, mais il va falloir revoir cette construction européenne, soit c'est vous et vous mentez. Mais dans tous les cas, il faut désobéir. Au bout d'un moment, quand c'est, enfin, l'Europe, elle est aussi là normalement pour protéger les citoyens. Quand ça va contre l'intérêt des citoyens, contre l'urgence climatique qu'il y a, on désobéit, puis on arrête de dire ça.
Oui, ça s'appelle ça de la désobéissance électrique et ça vaut bien la désobéissance civique. Parce que franchement, non mais c'est on marche sur la tête. Ils sont combien de fournisseurs, vous me dites, actuellement en France ?
Ils sont une petite cinquantaine. Alors, oui, alors dedans, il y a des pétroliers, hein, français ou étrangers. Autre, oui. Il y a Total, par exemple, Total Direct Energy, qui est très à la manœuvre sur le lobbying pour faire une place aux fournisseurs. Il y a Eni, par exemple. On a alors les anciens gaziers, Engie, qui est l'ancien EDF-GDF, qui est la même entreprise maintenant, est un de nos concurrents. Et puis, on a des gens de la grande distribution. Par exemple, on a Cdiscount. Enfin, on a des gens qui n'ont rien à voir avec le système électrique, mais puisqu'il suffit de faire du trading et d'acheter.
En gros,
leur activité, c'est démarcher les clients.
C'est ça.
Donc, les associations de consommateurs disent en plus, c'est infernal. Enfin, il y a du démarchage ultra agressif, frauduleux. Il y a sans arrêt, ça passe sans arrêt devant le tribunal avec des grosses amendes parce que on a des démarcheurs qui se font passer pour EDF, par exemple, ou pour Enedis, qui vont jusqu'à photographier le RIB des personnes. Alors, en général, les personnes les plus fragiles ou des personnes âgées, en leur disant, il faut qu'on revoie votre contrat.
Votre abonnement, oui.
Avoir changé de fournisseur. Donc, les associations de consommateurs disent, la seule innovation qu'ont apporté les fournisseurs, oui, c'est du démarchage agressif.
Très intéressant. En tout cas, on voit très, très bien, c'est qu'on a vraiment un credo. Quand une entreprise marche, eh ben, il faut la diviser et créer de la concurrence. Et quand ça ne marche pas, eh ben, on délocalise. Voilà, telle est la morale de l'histoire. Merci, Anne de Bréjas.
Je rappelle encore Anne de Bréjas, ingénieure chercheuse à Électricité de France, EDF, et porte-parole de la Fédération Sud-Énergie. Alors, vous avez bien entendu ces chiffres. En 14 ans, le prix de l'électricité a augmenté de 60%. Et quelle est la justification ? Permettre aux nombreux concurrents d'EDF d'avoir un espace concurrentiel. Et puis notre invitée Anne de Bréjas qui explique qu'il faut peut-être désobéir à la directive européenne. Vous aussi, vous réagissez à ce sujet au 0826 300 300.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Eh bien, la lutte des classes revient. Comment la lutte des classes revient? Mais c'est vieux, ça. Mais Warren Buffett a bien dit, oui, il y avait une lutte des classes, mais les riches ont gagné. Eh bien, écoutez, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque la lutte des classes ou la révolution se transporte où? À Wall Street, oui, à la bourse, où des petits porteurs sont en train de mettre en danger des hedge funds à 1000 milliards de dollars. Comment? C'est possible? Des petits Mickey qui n'ont pas peur des gros? Eh bien, c'est possible, on en parle, on l'explique, et c'est pas triste.
Sud Radio, André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Oui, vous avez entendu le puits de la monnaie sonnante et trébuchante. Évidemment, aujourd'hui, avec les bitcoins et compagnie, il n'y a plus que des monnaies hologrammes. Mais enfin, ça existe encore, tout cela, et plus que jamais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé, on en parle depuis quelques semaines, il y a eu un phénomène tout à fait étonnant. On a vu des sociétés, les plus grandes sociétés, les fonds de pension américains, qui manipulent des milliers de milliards de dollars, eh bien, se sont retrouvés, non, presque fort dépourvus, quand la bise des petits porteurs fut venue. Comment ça s'est passé? Eh bien, on en parle avec Julien Messias, qui est l'un des fondateurs de Quantology Capital Management, société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l'Autorité des marchés financiers en 2013. Alors, vous êtes vous-même de la partie, vous êtes homme de l'art, comme on dit, Julien Messias, avec Quantology. Alors, Julien Messias, racontez-nous comment ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En résumé, on peut dire que c'est 2 millions de déplorables, pour reprendre l'expression chère à Hillary
Clinton,
voilà,
oui.
Exactement,
oui.
Qui se sont coordonnés via les réseaux sociaux, via les forums, pour mettre en danger les hedge funds, en tout cas en principalement.
Rappelez ce que sont les hedge funds pour les auditeurs.
Alors les hedge funds, c'est ce qu'on appelle des fonds spéculatifs en français, qui ont souvent mauvaise presse. Pourquoi? Parce qu'ils prennent beaucoup de risques. et ils sont parfois, voire souvent, à l'origine de grands scandales financiers. On a eu LTCM au fin des années 90, ouais. Et d'autres histoires entre-temps.
Et ce n'est pas la même chose que les fonds de pension?
Non, les fonds de pension, en fait, ils sont là pour gérer l'épargne des retraités américains.
C'est ça.
Les hedge funds, eux, c'est vraiment pour générer des grosses performances avec les risques qui vont avec.
Avec les risques, ouais. Alors, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, donc?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous avez donc 2 millions de petits porteurs mm-hmm. qui se sont, on va dire, mis ensemble, qui se sont coordonnés pour faire monter le cours d'un titre. Ce titre, cette action, c'est GameStop. GameStop, en France, ça ne parle pas beaucoup,
ouais.
Mais c'est la maison mère de Micromania.
D'accord.
Alors là, je m'adresse à toutes les générations des 25, 30, 40 ans, dont je fais partie, qui ont justement passé leur jeunesse à fréquenter les rayons...
Les jeux vidéo.
Les jeux vidéo, ça, voilà, ouais, les jeux
ouais,
vidéo.
Ouais, ouais.
Et donc, c'est pour ça qu'il y a un côté affectif dans cette histoire. Il y a un côté affectif. Et donc, GameStop... était très très mal en bourse, à savoir que proche de la faillite. Mmh. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que aux États-Unis, les hedge funds sont friands d'une certaine stratégie, c'est de prendre des positions à la vente sur des titres qui sont déjà fragiles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont
c'est
gagner
fragile,
de l'argent.
Ils achètent à la baisse complète, c'est ça?
Alors, en fait, ils gagnent de l'argent si le titre baisse.
D'accord.
Voilà.
Ah oui, ok.
Donc, l'exemple de GameStop est le suivant. GameStop, ça valait 20 dollars. L'action valait 20 dollars fin 2020.
Ouais.
Et donc, évidemment, le hedge fund qui a vendu à 20, il veut racheter plus bas. Donc, il veut, si l'action va à zéro, pour lui, il encaisse le bénéfice entre 20 et zéro.
C'est voilà. Ça.
Là où les choses se compliquent, un petit peu, c'est si le titre remonte et va dans le mauvais sens pour le hedge fund.
Oui.
S'il passe de 20 à 40, à 80, etc. Là, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, ce qui s'est passé, c'est que justement, vous avez eu les petits porteurs qui ne voulaient pas voir disparaître le magasin cher à leur enfance, un peu la Madeleine de Proust.
Les Micromania, les jeux vidéo. Ouais.
Voilà, c'est un peu leur Madeleine de Proust.
C'était presque affectif, quoi.
Ça l'est totalement.
Ouais.
Et c'est une dimension importante. Donc, ils se sont coordonnés.
Ouais.
Donc, 2 millions de petits porteurs qui mettent chacun 1000 dollars. On va dire que le risque encouru par chacun est assez minime. Par contre, ça vous donne une force de frappe qui est significative.
Ouais, 2000 par 1000 dollars, c'est pas mal.
Ça fait 2 milliards.
2 milliards, bon. Ouais.
Donc, ils ont commencé à se coordonner. Donc, l'action a commencé à monter de façon rapide au début du mois de janvier. Donc, passant de 20 à 40, à 80, à 100. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans un hedge fund? Quand on voit que la position commence à coûter de l'argent,
ouais.
Il y a des signaux rouges. Qui arrive, et il faut se poser la question, est-ce que je continue à garder la position, donc à perdre encore plus, ou je coupe cette position, comme ça, tant pis, j'ai...
Mais juste pour comprendre, parce ouais. que ils ont acheté à 20 dollars.
Ils ont vendu à 20 dollars.
Ils ont vendu à 20 dollars, voilà. Ah oui, c'est ça, donc ils perdent.
Ils perdent,
c'est
voilà.
Ça, ils ont vendu
en fait, les hedge funds
ouais.
ont vendu à 20 dollars, et c'est les petits ça. Porteurs ont acheté à 20, à 30, à 40,
c'est
etc.
Ça. D'accord.
Donc, ça veut dire que le hedge fund... pour couper sa position, il doit racheter à 100. Donc, il encaisse une perte de 80. C'est énorme. C'est énorme. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on pense que les petits porteurs, ils ont perdu de l'argent dans l'histoire. En fait, non. Je vous explique. Le titre est passé de 20 à 100 dollars sous l'action des petits porteurs.
Des petits porteurs,
d'accord. Ouais. Mais le prix ne s'est pas arrêté à 100. Le prix, il est monté à 400. À 400. Donc, c'est passé de 20 à 400 en ligne droite. Et en passant de 100 à 400, ce n'est pas les petits porteurs qui ont acheté de 100 à 400. C'est les gros qui ont dû justement racheter en urgence
ah oui.
et qui ont fait monter le cours de façon extrêmement rapide.
Oui, c'est la bête.
C'est un peu l'effet domino,
d'elle-même.
Si vous voulez. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et donc, à tel point qu'il y a eu des interventions
et
de la part...
Et de grosses pertes pour les hedge funds.
Bah hedge oui, parce que oui. vous avez un hedge fund en particulier qui s'appelle Melvin Capital. Mmh. Qui a perdu plus de 4 milliards de dollars dans l'histoire. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce hedge fund a été recapitalisé. Il a été recapitalisé. Donc, en fait, on a recavé, si vous voulez, pour reprendre une expression simple. Et la question, c'est qui a recavé? On ne sait pas vraiment. Et l'autre point qui est important, c'est que, et là j'y arrive parce que c'est un peu un point extrêmement important pour comprendre la logique de Wall Street,
allez-y.
C'est que les petits porteurs, pour intervenir sur les marchés financiers, ils passent par des courtiers en ligne. Donc les principaux, c'est Robinhood, donc Robin des Bois, Interactive Broker, enfin d'autres.
Bref.
Et qu'est-ce qui s'est passé en plein après-midi, alors que la bourse était ouverte? Une annonce a été faite par Robinhood qui dit, voilà, il est maintenant interdit d'acheter des titres GameStop sur ma plateforme.
Ah oui, d'accord.
Donc, en fait, les petits porteurs
ils se sont retrouvés
coincés. Ouais. Ils ne pouvaient que vendre. Et donc là, ça crée un problème majeur, puisqu'en fait, la théorie financière, il y a un postulat qui sous-tend cette théorie qui indique que, en théorie, il est normalement aussi simple d'acheter que de vendre.
Que de vendre, oui, c'est ça. Voilà. C'est ouvert. Mais attendez, c'est légal ou illégal le fait qu'un courtier en ligne, par exemple, dit... Non mais est-ce qu'il a le droit ou pas, en fait? La loi ne le dit pas ou il n'y a pas de loi là-dessus, oui.
Alors, je ne suis pas... Je n'ai que peu de connaissances juridiques à ce niveau-là, mais il n'empêche que c'est comme si, pour reprendre une expression d'un des 2 millions de personnes qui avaient participé, il a dit, c'est comme si, à la mi-temps d'un match de baseball, on changeait les règles.
Oui, je comprends.
Après, à vous de voir si c'est légal ou pas. Est-ce que c'est moral?
On ne suit pas les règles, oui. Voilà. Moral, c'est un autre voilà. problème. Donc, en fait, ce qu'il y a eu, Julien Messia, c'est très intéressant. C'est qu'au fond, est-ce que c'est la première fois qu'on voit des petits porteurs comme ça s'unir pour renverser la vapeur? Parce que c'est rare, en tout cas. Pas la première fois. C'est un des rares exemples, je pense.
Alors, il y a déjà eu des actions comme ça dans les années 20. 1920,
oui,
mais ça remonte à longtemps, depuis la technologie a évolué, et il s'avère que justement les forums de discussion, les réseaux sociaux, permettent beaucoup plus ce genre de considération, enfin d'action, de class action, on va dire, entre guillemets, financière. Bon. Pour moi, c'est la naissance d'un populisme actionnarial, d'un populisme financier, qui finalement va dans le sens de l'histoire, et qui a vocation à se renouveler. Parce qu'on a vu le succès que ça a donné, et donc, fort de ce succès-là, évidemment, on a envie de rééditer l'exploit, à tel point...
En fait, il y a une conscience de classe des petits porteurs.
C'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est un peu romantique quand on parle comme ça, mais c'est un peu ça. Dans le sens où vous avez eu, quelques jours après, la même action qui a été rééditée sur le marché de l'argent. Pourquoi le marché de l'argent? Parce que sur le marché de l'argent, vous aviez également beaucoup de positions à la vente de la part des hedge funds sur ce métal-là.
Même chose,
et le titre, et le métal argent a pris 11% en une journée, ce qui est quelque chose d'extrêmement rare. Voilà.
Très intéressant. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que une action conjuguée, évidemment, avec les technologies, les réseaux sociaux, tout ça, peut s'organiser avec des millions de petits porteurs qui disent là, on va contrecarrer telle ou telle stratégie des hedge funds ou autres.
C'est exactement ça.
Est-ce que vous croyez que ça va se généraliser?
Alors,
enfin, ça peut se généraliser. Je ne dis pas que ça va, mais est-ce que ça peut se généraliser?
Ça peut se généraliser. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on prend le parallèle France-États-Unis, la grosse différence qu'il y a entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, chaque Américain a sa retraite qui dépend de la bourse. Parce que c'est des retraites par capitalisation. Plus, vous avez quelque part un historique chez les Américains d'investir en bourse, les fameuses histoires des Golden Boys, etc. En France, quand on parle des marchés financiers, de bourse, au mieux, les gens ne connaissent pas trop. Au pire, vous êtes vilipendé. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, il y a tout ce côté aussi culturel, en France catholique, qui fait que la bourse a très mauvaise presse en France et que, pour l'instant en tout cas, c'est quelque chose qui... Enfin, en tout cas, ce genre d'action reste circonscrit au niveau
aux
des États-Unis.
Ouais. En tout cas, c'est très intéressant parce que, voilà, on voulait vous en parler, cette révolte des petits porteurs, des petits Mickey qui n'ont pas peur des gros. Et peut-être que ça peut s'appliquer à d'autres domaines, notamment en politique ou ailleurs.
Exactement.
On en reparlera. Merci, Julien Messias.
Voilà, Julien Messias, vous l'avez entendu, fondateur de Cotology Capital Management. Vous pouvez, vous aussi, réagir à ce sujet. Hein. 0826-303-ans, cette révolte des petits porteurs face aux hedge funds ou fonds spéculatifs, fonds alternatifs, c'est ça, on peut dire ça comme ça en français.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour.
Tu fous ton masque, tu fous ton masque, fais gaffe parce que le coronavirus débarque. Tu fous ton masque, tu fous ton masque, tu claves les mecs. du fric pour pas qu'il
t'attaque. Oui, parodie de Foot à Gagoule, hein, de Michael Youn. Pas mal du tout. Effectivement, fout ton masque. C'est le parodie de Fatal Bazooka, bien sûr. Et là, on ne peut pas résister à vous parler de ceux qui ont été, malheureusement, ce n'est plus du tout la même chose, ceux qui ont été vraiment des grands visionnaires, on peut le dire. Oui, mais des grands visionnaires, on peut le dire. On vous a l'autre fois fait ce qu'ils avaient dit sur le virus en 2005, je dis bien en 2005. Et voici ce qu'ils ont dit sur les masques en 2010. Écoutez.
Mais Sean, comment s'appelle ce superbe remède de virus très dangereux qui va tous nous tuer ? Ça s'appelle le masque de papier. Le masque de papier ? Oui. Mais le masque de papier de quoi ? Le masque de papier qui va tous vous sauver la vie. Waouh ! Mais comment ça marche, le masque de papier ? Sean, une démonstration ! Sean, une démonstration ! Oh là 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 là, je suis dans le métro et tous les gens autour de moi, ils ont le virus qui tue. Mon Dieu, je vais mourir. Oh, si seulement je vais. Le masque de papier. Oh, ça y est, je sens déjà que je suis guéri. C'est extraordinaire, ce masque de papier m'a sauvé la vie. Waouh, merci le masque de papier. Simple d'utilisation, le masque de papier est fabriqué à 5 centimes par des ch'tis enfants chinois et vendu à peine à 20 dollars les 10. Et voilà, c'est fini, Sean. Si vous voulez survivre, envoyez vos chèques à la World Company. Dis donc, Bob, qui va être assez con pour acheter du papier? Tout ça pour une grippe qui est moins forte qu'une grippe normale.
Bonjour, je voudrais vous commander 100 millions de masques. C'est pour la France.
Bravo, je veux que madame est connaisseuse.
Ah bah oui, je suis ministre de la Santé alors.
C'est parti pour 100 millions. Et qu'est-ce qu'on dit ?
Merci le masque de papier.
Et voilà, c'était en 2010, au moment du H1N1. C'était évidemment, vous les avez reconnus, les guignols de l'info. Il est bon de temps en temps de marquer une petite point virgule dans ce monde de brut.
Allez, dans quelques instants, on va parler de monde de brut et de société de liquidation avec Olivier Marleix, qui est député LR d'Eure-et-Loire, ancien président de la commission d'enquête parlementaire sur les décisions de l'État en matière de politique industrielle et qui nous présente son livre Les Liquidateurs. A tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Et André Berkov fait en face-à-face et commence déjà la discussion avec Olivier Marleix, député LR d'Eure-et-Loire, ancien président de la commission d'enquête parlementaire sur les décisions de l'État en matière de politique industrielle et auteur de ce livre « Les liquidateurs » aux éditions Robert Laffont.
Et je dirais aussi qu'Olivier Marleix, ce n'est pas négligeable, a reçu en 2020 un prix éthique de l'association Anticor qui, comme vous le savez, traque les corruptions. Et j'ai bien aimé dans la page de garde, dans la page pendant la quatrième de couverture de votre livre, Olivier Marleix, vous dites « Depuis 40 ans, une élite veut liquider la France. Depuis 2017, cette élite est au pouvoir. Elle n'existait pas avant ?»
Si, bah, c'est ma thèse d'ailleurs, elle existait déjà. Mais j'ai vraiment essayé dans ce livre, c'est une question que je me suis posée à moi-même d'ailleurs, c'est finalement c'est quoi le macronisme ? Il vient de la gauche, il a été, les Français semblent l'avoir oublié, il a été le bras droit de François Hollande pendant 5 ans sur les questions économiques. Donc vraiment le lieutenant, celui qui a pensé la politique économique brillante de François Hollande, brillante était évidemment dit en riant, de François Hollande. Et là il essaie depuis 4 ans de nous faire croire qu'il sera de droite et que la droite devrait disparaître puisque finalement il est là. Donc finalement c'est quoi le macronisme dans tout ça ? Et la thèse en réalité de mon livre, c'est de dire qu'en fait ce que fait Macron, ce n'est que la poursuite de ce qu'a fait ce qu'on appelait la deuxième gauche dans notre pays, c'est-à-dire cette gauche qui au tournant des années 80, ce qu'on appelle le tournant de la rigueur, a découvert la mondialisation avec des trajectoires d'ailleurs formidables, hein, pour certains d'entre eux. C'est bon, Jacques Delors qui part à la Commission européenne, c'est l'ami qui part de qui est cabat joint de Mauroy à Matignon, on fait les nationalisations, etc. Le type, il part à la Commission européenne et il termine patron de l'OMC, de le grand marché mondial,
l'Organisation
etc.
mondiale du commerce.
Voilà. Donc c'est toute cette gauche qui découvre la mondialisation.
Dominique Strauss-Kahn qui devient FMI,
etc. Cette gauche qui en fait est déjà très mondialiste dans sa tête. Hein. Elle est sur les questions migratoires. le grand Michelet à la fin du 19e siècle disait que la gauche était mondialiste, que c'était son péché. Et donc eux, ils sont mondialistes, mais ils découvrent la mondialisation financière. Mmh. Et ils découvrent une mondialisation financière au pire moment, c'est-à-dire au moment où l'échange mondial devient un truc un peu gore, comme diraient les jeunes, c'est-à-dire où vous avez la Chine qui arrive là-dedans, qui fait du capitalisme d'État, où vous avez un agent fou qui circule sur la planète. Et finalement, ce grand capitalisme mondial, il a pas toutes les règles qu'il faudrait, puisque on peut produire 2 euros de l'heure en Chine, vendre sur des marchés matures comme en Europe, et mettre ses dividendes dans un paradis fiscal.
Et finalement, on a mis ensemble des gens qui étaient à des degrés extrêmement
bien sûr. Et donc le macronisme s'est porté à son paroxysme le travail de cette seconde gauche. Je crois qu'il existait déjà et qui est là. Et alors ce qu'elle a pour moi de tout à fait là où c'est le plus choquant, c'est qu'en réalité face à cette mondialisation débridée des échanges, et bien évidemment ça fait de la casse dans les vieilles économies industrielles comme les nôtres. Et donc il faut déployer toujours plus de redistribution pour éviter la révolte. Toujours plus de redistribution. Alain Minc a très bien théorisé dans les années 2005 dans un petit essai qui s'appelait ce monde qui vient, où il dit qu'il faut que l'avenir c'est le grand marché mondial et de la redistribution de la social-démocratie, ce que j'appelle la serpillière sociale en fait. Et cette logique, on découvre aujourd'hui qu'en fait qu'elle n'est plus soutenable parce que l'État ne peut pas s'endetter indéfiniment. Et puis,
est en train de faire.
Voilà. Donc il y a un moment où ce ne sera plus possible. Mmh. Et puis surtout, cette redistribution, c'est toujours plus de prélèvements sur les Français, sur les entreprises, et donc c'est toujours moins d'efficacité dans cette mondialisation. On nous met des boulets aux pieds et on nous dit allez nager dans le grand bain de la mondialisation. Et donc aujourd'hui, on arrive, je pense vraiment, au bout du système. On va sortir de la crise. Du Covid, où les Français vont avoir une demande de bien public, de plus d'hôpital, plus de maisons de retraite, ou en tout cas mieux d'hôpital, mieux de maisons de retraite,
plus d'équipement,
plus d'éducation, etc., plus de bien public, et en réalité on aura moins que jamais les moyens de leur offrir. Donc il va falloir inventer autre chose et en terminer avec le macronisme.
Mais alors justement, comment vous c'est une question vraiment qu'on peut se poser à chaque fois. C'est qu'on voit ça et vous faites un constat tout à fait à la fois accablant et hélas, je dirais, très cohérent de ce qui se passe. Mais comment il se fait que ces gens qui ne sont pas tous des rachitiques du bulbe, comment il se fait qu'ils le savent, j'imagine quand même, et qu'ils font cette fuite en avant? Parce que c'est leur logique mondialiste qui dit, écoutez, il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça, il faut y aller, et creusons le trou, et disons, simplement, on se refile la patate chaude, et demain on verra, après moi le déluge.
Il y a plusieurs réponses. D'abord, on a aujourd'hui au pouvoir une toute petite équipe. Enfin, les décisions, elles sont prises
par une personne,
par Emmanuel Macron tout seul, avec un conseiller principal qui est Alexis Kohler. Les autres ont assez peu voix au chapitre. Je suis pas certain que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, en réalité, ait beaucoup voix au chapitre au quotidien. D'ailleurs, on le voit bien sur l'affaire Veolia-Suez. Personne ne peut croire que Veolia, qui appartenait, dont le premier actionnaire est public, c'est la Caisse des dépôts et consignations, et de l'autre côté Suez, qui est contrôlé indirectement par l'État à travers Engie, que ces gens-là ne soient pas, donc M. Clamadieu pour Engie et M. Frérot pour Veolia, ne soient pas allés demander l'autorisation à l'Élysée avant de lancer cette opération de revente. Et pourtant, on voit donc qu'ils ont vraisemblablement eu un feu vert, sinon ils ne seraient pas passés à l'action, et on voit finalement le ministre de l'économie, lui, essayer de s'opposer, etc. Donc tout ça nous montre que des décisions sont prises que par le président de la République, à peu près tout seul. Un président qui a un profil quand même extrêmement extrêmement atypique, extrêmement particulier. C'est pas lui faire injure que de rappeler son CV, c'est-à-dire ce garçon a son bac très jeune. Il est une très bonne répétitrice, donc il a son bac assez jeune. Il réussit tout de suite le concours d'entrée dans des grandes écoles. Donc il rentre à l'ENA. À la sortie de l'ENA, inspection des finances, tout de suite récupéré. Sa seule vraie expérience de la vie, ça va être la commission Attali. Et puis il récupère récupérée par, par une banque d'affaires, et hop, à l'Élysée, sous François Hollande. Sa connaissance, je pense vraiment de la vie,
du terrain de la France.
Oui, des réalités de notre pays, donc sa capacité d'empathie avec ce que sont les Français. Je cite à la fin, en conclusion de mon livre d'ailleurs, cette phrase de Georges Pompidou qui s'interroge dans le Nœud Gordien sur comment choisir les bons dirigeants, et dit exiger de nos dirigeants qu'ils sortent des grandes écoles, qu'ils aient fait l'ENA dans Malsup. C'est un réflexe d'ancien régime, dit Georges Pompidou, qui était pourtant lui-même agrégé de lettres.
Et ça date de 74, 73.
Oui, un peu avant, par définition. Et il dit, rien ne remplace l'empathie, la connaissance des Français, etc. Et donc, on a aujourd'hui des dirigeants qui ont grandi dans un monde très particulier, et ce qu'ils connaissent, c'est ce monde de l'argent, de ce capitalisme que j'appelle ce capitalisme devenu illibéral.
Ce capitalisme de connivence, on peut le dire, enfin, spécialement dans une France des Ménines de Velasquez. On se retrouve avec vous, Olivier Marleix, dans quelques minutes après les infos, et puis avec les auditeurs de Sud Radio.
Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez réagir à partir de 13h15 au 0826 300 300, venir justement poser des questions à notre invité Olivier Marleix, et puis vous pouvez aussi revenir sur les autres sujets que l'on a abordés aujourd'hui, notamment ce prix de l'électricité qui a augmenté de 60% en 14 ans, tout ça pour laisser la place à un espace concurrentiel. Ça pose quand même des questions, et puis la révolte des petits porteurs. On vous attend sur tous ces sujets. 0826 300 300, à tout de suite.
Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Les Français parlent au français, les Français parlent des liquidateurs. C'est le titre du livre d'Olivier Marleix aux éditions Robert Laffont. Olivier Marleix, député LR d'Eure-et-Loire.
Et je voudrais citer un extrait de votre livre, Olivier Marleix, qui m'a frappé. Et qui vous a évidemment frappé vous-même. Vous dites ceci, vous écrivez ceci. « J'ai à l'esprit un échange avec un père de famille sur un rond-point à l'entrée d'année où je suis élu. Il me racontait qu'il était marié, qu'il gagnait 1 800 € par mois, qu'il ne s'était jamais plaint de son salaire et qu'avec sa femme, ils avaient emprunté il y a 15 ans pour payer leur maison. Jusque-là, tout n'allait pas trop mal. Mais là, dit votre interlocuteur, ma fille vient d'avoir son bac. » Elle est en fac à Rouen. Je dois lui payer une chambre. Cela me coûte 500 € par mois. J'ai demandé si je pouvais avoir une aide. On m'a répondu que j'étais trop riche. Trop riche, je rappelle, à 1 800 € par mois. Je ne m'en sors plus, dit-il. C'est quand même...
Oui, c'est évidemment un des problèmes aujourd'hui, quand même, je crois, les mieux identifiés dans notre pays. Cette question du fait que le travail ne paye pas suffisamment, d'une part. D'autre part, le fait que la redistribution, elle est réservée elle exclut beaucoup de monde, et elle apparaît très, très injuste. C'est la première fois, en fait, qu'aujourd'hui, ce sont d'ailleurs les gens finalement modestes, qui travaillent, mais qui sont comme ce monsieur juste au-dessus des minima, qui contestent la redistribution. Aujourd'hui, les gens les plus riches, finalement, trouvent ça formidable, la redistribution. C'est un peu comme une adhésion à un club privé, vous savez. Voilà, aujourd'hui, on donne, c'est une obole laïque pour les bonnes œuvres de l'État. Donc, les plus riches, finalement, ne contestent plus la redistribution. Ils savent, en général, d'ailleurs, quand même, s'en arranger un peu.
Ils
sont très, 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 très riches. Et ce sont finalement les gens les plus modestes qui la contestent. Donc c'est vraiment que ça marche plus dans notre pays, et qu'il faut remettre les choses à plat. Voilà. Bon, j'observe qu'il y avait quand même un président, moi, que j'aimais bien, qui était Sarkozy, qui avait bien identifié ce sujet-là, qui avait essayé de trouver une solution, qui était la question des heures supplémentaires pour travailler plus, pour gagner plus. Et que M. Hollande a eu ce geste stupide de les supprimer.
Mais alors justement, pour revenir au fond, c'est aussi le fond de l'affaire, mais comment faire entre ce capitalisme de connivence et cet étatisme justement qui consiste aujourd'hui à ordonner, enfin sans l'ordonner, voilà, on fait tout, on ordonne, etc., mais qui en fait est réduit presque à une communauté réduite aux acquis.
Oui, donc le paradoxe de la situation actuelle, c'est ça, c'est qu'on a des entrepreneurs qui sont plongés dans le grand bain de la mondialisation, qui sont confrontés à une concurrence mondiale extrêmement virulente. Hein, comment faire face, une fois encore, à des produits qui sont fabriqués à 2 euros de l'heure en Chine, quand vous avez un coût du travail qui est en moyenne de 35 ou 36 euros de l'heure en France, avec les charges, etc.
Oui,
coût du travail moyen, évidemment. Cette concurrence, elle est insupportable, ou la question des travailleurs détachés, etc. Alors qu'on a toujours plus de charges, toujours plus de normes à l'intérieur. Donc il faut évidemment inverser complètement ce système. Aujourd'hui, on a l'étatisme, en fait, l'étatisme en bas, les normes, les charges, les contrôles. J'ai une petite commerçante à Dreux, dans ma circonscription, qui est venue me voir. Ouais. Elle s'était pris un procès-verbal de 10 pages pendant le premier confinement, puisqu'elle avait eu le malheur de faire une publicité sur Facebook. C'est une marchande de jouets. 10 pages de procès-verbal. Il y a un fonctionnaire qui a eu le temps d'aller faire ça en plein confinement. Donc on a l'étatisme au quotidien qui épuise tout le monde, qui étouffe tout le monde, qui discrédite l'État d'ailleurs. Je pense que c'est J'en suis venu à penser que ce n'était pas fait par hasard, cette envie de discréditer l'État. Et en revanche, là où on aurait besoin de l'État, c'est-à-dire dans les grands échanges mondiaux, là où on aurait besoin d'un État stratège, d'un État qui accompagne, d'un État qui protège, en se battant pour que l'Europe soit un peu plus protectrice, pour qu'elle se batte contre la concurrence déloyale ou qu'on le fasse nous-mêmes, eh bien là, l'État est aux abonnés absents. Et l'État laisse faire, il laisse vendre Alstom, il laisse vendre Alcatel, avec derrière des dégâts considérables pour notre économie.
Donc, oui, parce qu'il y a eu une foule de ventes incroyable. Enfin, la France à la découpe, quoi.
Ah, sous Monsieur Macron, ministre de l'économie, on a eu vraiment l'âge d'or des fusions-acquisitions. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant vendre.
Dans l'histoire de la Ve République,
des fusions-acquisitions d'un montant de 5 à 10 milliards sur la place de Paris, vous en avez une tous les 3-4 ans.
Oui.
Là, vous en avez eu en l'espace de 2 ans, vous avez 4 méga fusions-acquisitions qui se font. Alors qui malheureusement se font toujours au détriment de la France. C'est-à-dire que les fusions-acquisitions, c'est pas mal quand vous êtes celui qui achète, parce que vous allez prendre le contrôle d'un concurrent et vous allez récupérer ses marchés. En revanche, quand vous êtes le vendu, si je puis dire, c'est beaucoup moins bien, parce que c'est sur votre dos que va se faire la réduction des effectifs, etc. Et la pression sur les sous-traitants. Alcatel, quatrième plan social, donc Alcatel, vente signée, autorisée par M. Macron. Sans sa signature, elle n'était pas autorisée. C'était une entreprise stratégique. On est, depuis que cette vente a eu lieu il y a 4 ans, on en est au quatrième plan social. Alstom Power, les turbines de nos centrales nucléaires, on va être à 4000 emplois supprimés depuis le rachat par GE. Rachat par GE qui est une catastrophe, parce que GE n'était pas le bel américain en bonne santé. Mais au contraire, c'est une boîte qui avait de grosses difficultés, General Electric, par ailleurs, à cause de son système de retraite, etc. Voilà, tout est à l'avenant. On a eu sous cette ère Macron, on a jeté en pâture plus que jamais nos grandes entreprises dans ces grands mouvements de fusion-acquisition transnationale, sans le moindre souci de protection de l'emploi dans notre pays, de notre appareil productif. Voilà.
Mais est-ce que ça revient...
Et quand la crise du Covid fut venue, on se trouva fort dépourvu. Hein.
Oui, et puis on a vu comment d'ailleurs, puisque l'État a délégué à l'Union européenne l'achat des médicaments et des doses, on a vu le résultat.
Hein. Oui, mais ça c'est un scandale, on est d'une naïveté. Enfin, mais il y a une responsabilité particulière de la Macronie là-dedans. Évidemment qu'on pouvait, que c'était pas idiot de demander à l'Europe d'utiliser sa force de frappe. L'Europe c'est le premier marché mondial, donc première puissance économique mondiale. C'était pas idiot de demander à l'Europe de faire des achats groupés. Mais nos voisins allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont laissé faire l'Europe et ils ont acheté en parallèle.
La Belgique.
Alors
aussi.
Que nous, on est les neneux de service, on a tout attendu de l'Europe, quoi. Et on a ce scandale absolu d'une entreprise, qui est d'ailleurs pas une petite entreprise, hein, Valneva, dans les Pays de la Loire, qui a eu une commande ferme avec un chèque de 460 et quelques millions d'euros fait par les Anglais, pour se faire fournir des doses de vaccins produits en France par une entreprise française. Ouais, alors que nous, quand le ministère de l'Industrie a été sensibilisé dès le mois de juin par la présidente de la région, Madame Morançais, réponse du gouvernement, non, ça ne nous intéresse pas, laissez faire les grandes personnes. On a une espèce de choix, d'aveuglement idéologique, on revient à votre question de départ. Toutes les décisions sont prises par une ou deux personnes qui sont totalement formatées à cette idéologie
et qui nous considèrent comme des enfants, enfin qui infantilisent.
Oui, en plus, au passage, bien sûr. Ce qui est le drame de la gestion, pour moi, de cette crise. Évidemment, moi, je parle de. J'ai jamais fait aucun commentaire sur il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Parce que je mesure à quel point c'est compliqué. Enfin, ce que j'observe, c'est que vous rappeliez tout à l'heure l'épisode H1N1 avec Madame Bachelot. À l'époque, sous Chirac et sous Sarkozy, il y avait un stock d'1 milliard de masques. Enfin voilà, 1 milliard de masques, ça laissait venir. Là, on nous a dit non, les masques, ça sert à rien. Avant de nous dire qu'il fallait les mettre, qu'il fallait tel type de masque, etc. Oui, il y a différentes façons de gérer la crise. Et je pense que la pire, c'est ce côté Jacquady, auquel se livre le gouvernement. Jacquady ouvre les restaurants, Jacquady ferme les restaurants, Jacquady ferme les rayons essentiels. Enfin, tout ça est incompréhensible. Je pense que dans une crise longue, il faut d'abord faire confiance aux citoyens, responsabiliser nos citoyens. On ne peut pas enfermer tout le monde tout le temps. Et donc, c'est la liberté, la responsabilité. D'ailleurs, on se rend compte qu'en Suède, qui a fait ce choix, on a finalement des résultats qui ne sont pas très différents des nôtres. Quoi.
Du point de vue des chiffres et tout ça, absolument. Mais oui, on se retrouve à la Margex, on se retrouve avec les auditeurs après toute cette petite pause. Et je pense qu'on va continuer à creuser l'audit que vous avez fait et le bilan, sinon le dépôt de bilan.
Et vous connaissez le numéro de téléphone 0826 300 300.
Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
Et la discussion continue entre André Berkoff, Olivier Marleix, je rappelle son livre Les Liquidateurs aux éditions Robert Laffont, et vous. Et vous tous qui nous écoutez et qui nous appelez au 0826 300 300. On va partir dans les Yvelines d'abord. On va donner la parole à Patrick. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour Patrick.
Oui, bonjour, bonjour. Je remercie la présence de monsieur qui j'ai oublié son nom.
Olivier Marleix.
Comment vous prononcez?
Olivier Marleix.
Marleix. Donc voilà. Bienvenue monsieur, merci de venir un petit peu éclairer un peu tout le monde. Et monsieur et monsieur André Berkoff, bien sûr, qui est fidèle au poste. Heureusement qu'il est là.
C'est gentil.
Voilà. Oui. C'est un problème. Moi, je crois qu'aussi, c'est la fin d'un système, effectivement, parce que il faut quand même être honnête, les Français ont eu la réputation d'être pas mal assistés par l'État. C'est vrai qu'on a toujours voulu avoir cette protection sociale, mais on a tellement laissé l'État prendre le pas que l'État décide de tout. L'État écrase les Français. Je me souviens de Georges Pompidou qui disait « Foutez la paix aux Français avec les impôts ». Donc déjà, il le savait, vous voyez. Ça fait écho un petit peu à ce que disait monsieur concernant Georges Pompidou, déjà à l'époque. Mmh. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai appris qu'il était mort, je sortais d'un stage d'athlétisme ailleurs, on remontait sur Paris, j'étais à la gare de Toulon. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais 17 ans, mais quand j'ai appris sa mort, j'ai dit « Mince, c'est pas bon pour la France ». Je sais pas pourquoi. Hein. J'étais jeune, mais j'ai senti que on perdait quelque chose vraiment pour la France. Mmh. Et puis, je suis tombé ici sur un passage dans la Bible, dans Proverbe 29, verset 4. Ça donne de la sagesse. Alors, je vous le dis en anglais, parce que c'est en anglais, mais vous comprenez ça, je le sais.
Allez-y.
A king gives stability to a country by justice, but the one who overtaxes it brings it to ruin. Vous vous rendez compte?
To ruin, oui.
Ouais. Celui qui taxe trop son pays l'amène à la ruine.
Oui. Et vous rendez compte? Et l'autre amène à la justice, absolument.
Voilà.
Vous voyez, la Bible avait tout dit déjà.
Ben oui, parce que Non, non, mais c'est vrai, c'est un livre de sagesse, mais... c'est pas un livre religieux comme on veut le présenter.
On est d'accord.
Voilà, donc moi je crois qu'on est à la fin d'un cycle, effectivement, et puis Monsieur Macron, c'est quoi? C'est un storyteller, voilà ce qu'il est. C'est un raconteur d'histoire, c'est ce qu'il faisait à Rothschild pour faire ses opérations financières. C'est pas moi qui le dis, c'est le directeur de la banque Rothschild qui le dit lui-même, vous voyez? Donc on a élu un type qui raconte des histoires, et là on est en train de le payer cher. Voilà.
Alain Marleix, Olivier Marleix, est-ce que dans l'audit que vous faites, parce que vous faites un véritable audit en fait du macronisme, enfin de la gestion Macron, ça fait quand même maintenant 3 ans et demi, pratiquement 4 ans, pas loin, est-ce que au fond, comme dit notre auditeur, est-ce qu'au fond, tous ces débats, tout ce qu'il y a eu, parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose, Henri Queuil disait, quand il y a un problème, on crée une commission, je m'embarrasse dans les prénoms là, Emmanuel Macron disait, quand il y a un problème, on crée des débats, et on fait des débats ou des commissions citoyennes.
Ah, c'est d'ailleurs une des qualités que je lui reconnais, c'est un formidable illusionniste, il a une capacité à... parfois avoir une espèce d'empathie pour comprendre ce que disent les gens, et apporter immédiatement des mots, une réponse qui semble satisfaisante. En réalité, on est quasiment au terme du quinquennat. Enfin, on est à 4 ans. C'est pas maintenant qu'il va y avoir des grandes réformes. Il n'y a eu aucune grande réforme. La seule qu'il a voulu faire, c'est sur les retraites, qui de mon point de vue était une très mauvaise réforme. Je peux dire pourquoi, mais c'est une mauvaise réforme parce qu'elle était pas. Enfin, voilà, le vrai courage, c'était de dire aux gens qu'il faut travailler un an de plus tout de suite jusqu'à 64 ans. Bon, au lieu de ça, c'était des chineuseries. Tout ça n'intéressait finalement que BlackRock et quelques ceux qui allaient pouvoir créer des fonds de pension à la française. Mais donc non, il n'y a pas eu de... Le bilan en termes de réforme, il est absolument nul. Je voudrais revenir sur la référence que fait votre auditeur sur la période Pompidou. Parce qu'en fait, c'est une période, ce que j'essaie de faire dans mon livre, d'ailleurs, après avoir dit ce qu'était le macronisme, j'essaie de voir comment on pourrait y répondre demain. Et je pense que la période Pompidou, elle est très, très intéressante. Que Pompidou, effectivement, enfin, on est dans une situation qui pouvait ressembler un petit peu quand en 58 le général de Gaulle revient. Donc Pompidou n'est pas Premier ministre tout de suite, il n'est qu'en 62. Mais on est confronté à la concurrence européenne. De Gaulle en 58 fait le choix de rentrer dans le marché commun. On lui dit, on a signé l'année dernière le traité de Rome, mais on peut s'asseoir dessus, mon général. Et il dit, non, il faut que notre économie, elle se challenge en rentrant dans l'union, dans le marché commun. Qu'est-ce qu'on fait dans cette période gaulo-pompidolienne? On cherche à se rendre d'une part plus compétitif, c'est-à-dire à baisser les charges, à baisser les normes sur nos entreprises pour donner plus de... Enfin, pour libérer des énergies dans notre pays, parce qu'il y a la richesse, on la crée soi-même par le travail, par la liberté d'entreprendre. Il n'y a pas d'alternative à ça. La redistribution ne peut venir qu'une fois qu'on a produit, qu'on a créé cette richesse.
On ne produit que ce qu'on a.
Donc, enfin, on crée plus de liberté à l'intérieur, et en même temps, Pompidou a cette vision qu'il faut mieux organiser notre économie dans la compétition qui s'ouvre. Donc on va avoir un État stratège qui va accompagner les entreprises, qui va d'ailleurs parfois les forcer à se regrouper pour peser davantage dans la compétition. On a plus de liberté à l'intérieur et un État stratège, moins d'État en bas et plus d'État en haut.
Olivier Marleix, est-ce que c'est coïncidence ou pas? Est-ce que vous dites que le dernier budget en équilibre qu'on a connu en France, c'est en 74?
Oui, il y a d'abord eu... Oui,
bon, il y a eu la crise du pétrole,
évidemment,
il y a eu
la
tout
crise
ça,
qu'il ne faut, faut pas oublier. Mais il y a, c'est vrai que petit à petit, s'est installée quand même cette idée. Alors, on a commis des erreurs spectaculaires en France. Par exemple, c'est vrai que je m'attache beaucoup aux questions industrielles. Il y a une époque, dans les années 90, où on a fait cette analyse. Une fois encore, c'est la deuxième gauche que j'évoquais tout à l'heure, a une grosse part de responsabilité.
Chirac n'y est pas pour rien non plus.
Pardon ?
Chirac n'y est pas pour rien non plus.
Qu'il fallait devenir, en tout cas, une économie de... Je prends la paix des ménages dans ma famille politique. Qu'il fallait devenir une économie de service, que l'industrie c'était fini, et on a arrêté de se battre, de défendre notre industrie dans la compétition mondiale. Ce qui est évidemment une erreur colossale. Vous savez qu'en France, la production industrielle, elle est faite pour moitié, 50%, par seulement 80 entreprises. 80 grandes entreprises assurent 50% de la production industrielle. À chaque fois qu'on en laisse, ouais. qu'on en laisse une, Alstom, Alcatel, quelques autres tombées...
Mais 80 entreprises en tout.
En tout, oui, 80 seulement assurent 50% de la production industrielle dans le pays. Mmh. Donc quand on en laisse une se faire racheter par un investisseur étranger, oui. ben, petit à petit, on condamne notre appareil productif en réalité.
Bien sûr. Mais alors justement, oui, mais vous évoquez Pompidou, juste un mot, Olivier Marleix. Le problème, c'est qu'on n'est plus du tout dans le même monde. 50 ans après, ou pratiquement, ou presque, enfin, la mondialisation a totalement changé aussi. C'est-à-dire que, effectivement, on ne s'est pas du tout prémuni, mais est-ce qu'on n'a pas été, est-ce que, juste pour revenir à ça, vous évoquez quelque chose d'ailleurs, à l'article 3 de la Constitution, hein, puisque la démocratie, c'est les représentants et le référendum. Bon, le dernier référendum, 2005, les Français ont voté à 55% contre celle de la Constitution européenne. On s'est assis dessus, on sait ce que ça a donné. Mais est-ce que ça n'a pas été ça, gauche et droite confondues, qu'au fond, on n'a pas du tout tenu compte, mais depuis toujours, de ce que pensaient les électeurs ou de ce que pensaient les Français?
Ah, c'est sûr que depuis... depuis quelques décennies, je ne vais pas mettre de nom, pas de date précise, mais on a quand même le sentiment qu'on est dirigé par une élite qui est une élite souvent technocratique dans sa formation. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui réussissent les concours, mais peut-être chacun à sa place. Or, la vie politique française, elle a été cannibalisée par des hauts fonctionnaires qui n'ont eu de cesse de nous adapter, de vouloir nous adapter à la mondialisation. Alors, oui, il fallait sans doute toujours cette part, on est dans une compétition mondiale, il y a cette part faut chercher à se mettre à niveau de la compétition. Mais il ne faut pas non plus vouloir s'adapter de manière totalement invraisemblable à des choses auxquelles on ne pourra jamais s'adapter. On ne fera jamais travailler les Français pour 2 euros de l'heure. Donc on ne sera jamais totalement compétitif. Donc il y a un moment où il faut aussi avoir le souci de mettre un peu de protection. Et je pense qu'on aurait une classe politique un peu plus empathique, un tout petit peu moins techno, un tout petit peu moins planante. Elle aurait eu un peu plus d'empathie pour les Français et elle aurait peut-être cherché à mettre un peu plus de protection sur notre économie. Et je pense qu'un peu de protection éviterait beaucoup de redistribution, éviterait ce que j'appelle cette serpillière sociale qu'on passe allègrement. On employait cette expression entre nous tout à l'heure, c'est la mutualisation des pertes et la privatisation des profits. C'est un peu la loi du genre y compris nos dirigeants donnent le sentiment de servir parfois, quoi.
Allez, vous continuez de nous appeler 0826 300 300, vous continuez de débattre, on vous attend.
Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 et de venir poser des questions à notre invité Olivier Marleix. Et justement, allez, on va dans l'Aude, on va donner la parole à Frédéric. Bonjour Frédéric.
Bonjour, bonjour à Olivier Marleix et bonjour à André.
Bonjour Frédéric.
Je vous appelais donc pour rebondir sur l'affaire GameStop, notamment dans la discussion que vous aviez tout à l'heure.
Oui.
Et bon, vous dire que j'ai fait partie de ces petits particuliers qui se sont entre guillemets ligués contre ces hedge funds. D'ailleurs, à ce sujet, en préambule, il y a eu un article du Parisien qui est paru dimanche sur notre combat contre ces hedge funds.
Ouais.
Et France 5 va aussi faire un reportage sur ce qu'on est en train de faire entre l'Europe et les États-Unis. Alors, pour rebondir sur ce que disait Olivier Marleix et vous, André, tout à l'heure, c'est un combat qui est évidemment, on pourrait dire, d'entrée perdue entre David et Goliath. Mmh. Sauf que il faut remonter pour la genèse de ce combat, il faut remonter à 2008.
Oui.
Et la crise des subprimes. Et les premiers hedge funds, ces fameux fonds spéculatifs, qui avaient déjà fait parler d'eux. Faut rappeler à tous vos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent, qu'en 2008, notamment aux États-Unis, des pères de famille, des mères de famille, des oncles, des tantes, ont perdu tout.
C'est
leur
vrai.
Entreprise,
leur propre maison.
Ça a été catastrophique, ça a été atroce pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles.
Ouais.
Et beaucoup de jeunes ont vu ça, ont vu leurs parents tout perdre, et n'ont pas eu aussi la chance de pouvoir faire des études. Donc il y a eu, quelque part, un écœurement, mais un combat, une haine peut-être, qui est montée au fil du temps contre les hedge funds. Et comme vous l'aviez très bien dit, la plupart des retraites, la plupart de l'argent des Américains dépend de ces hedge funds. Et donc ce combat aujourd'hui, il prend une tournure vraiment, vraiment d'une dimension morale et d'une dimension éthique, voire sans doute politique, puisque le Congrès aujourd'hui, vous êtes au courant, aux États-Unis s'est saisi de ce qui s'est passé avec l'affaire GameStop et AMC, hein, qui est la chaîne de cinéma, parce qu'effectivement, les fonds spéculatifs ont eu un genou à terre. Alors, c'est qu'un genou à terre, mais c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars qu'elles ont perdu. Et donc, aujourd'hui, si on veut comprendre ce combat qui est aussi européen et qui est aussi qui est international, c'est justement en revenant à 2008 et aux excès de cette crise des subprimes.
Alors justement, c'est très intéressant, vous soulevez ce problème, parce que je vais l'éteindre, on va en parler avec Olivier Marleix, qui est intéressant dans cette histoire. Bon, Julien Messia a appelé le mot de populisme boursier, mais au-delà de ça, c'est vrai, vous faites très bien de rappeler les subprimes et la crise de 2008. En fait, on peut, pour ces paniers déplorables dont parlait Hillary Clinton, et je vous pose la question... Olivier Marleix, c'est la question de ce mot valise que les adversaires emploient avec du bout des lèvres, le mot populisme. Mais toute cette population qui a été laissée pour compte, qui ont été plus ou moins abandonnées, qui sont considérées comme Christophe Guilluy, la France périphérique et autres, qu'on a un peu dégagé, disons le mot, hein, en disant on ne va pas vous laisser crever de faim, mais enfin vous ne servez plus à rien. Hein. Il y a les métropoles mondialisées et le reste. Est-ce que tout ça, aujourd'hui, ne constitue pas un cocktail qui peut effectivement, un cocktail, je dirais presque à explosion?
Bien sûr, mais on vit une phase du capitalisme mondial qui est totalement inédite. Jamais dans notre histoire, les États n'ont été à ce point faibles et affaiblis par rapport aux puissances financières.
Les GAFA.
Alors, notamment les GAFA, un phénomène très intéressant, c'est-à-dire qu'on est en train de reconstituer dans ce capitalisme des monopoles. Là où le libéralisme, la théorie économique libérale, nous apprend que le mal absolu, ce sont les monopoles. Donc, on a un capitalisme. Il y a 40 ans, les mots capitalisme et libéralisme s'employaient de manière très synonyme. C'était le même système face au système socialiste qui gouvernait la moitié de l'Europe, je le rappelle. Aujourd'hui, ces deux notions sont en train de se détacher. C'est ce que j'écris dans mon livre. Le capitalisme mondial, il devient illibéral, il devient destructeur, il écrase le petit. Pourquoi ? Parce qu'il se joue finalement des imperfections du marché mondial. Le grand marché mondial sur lequel circule l'argent, on parle de dizaines de milliards de
milliers de milliards de dollars,
de trillions. On disait 14-15 000 milliards de liquidités en circulation permanente. Bon. Avec finalement insuffisamment de règles, évidemment. Alors, l'Europe a essayé d'organiser un peu les choses après la crise des subprimes, où il y a eu un très important mouvement de régulation au niveau européen pour essayer de mieux nous protéger, demander aux banques d'avoir davantage de fonds propres, etc. Mais ce chantier de la... Alors, on n'échappera pas à la mondialisation, hein, mais il y a un immense chantier devant nous de régulation de cette mondialisation. Donc, arrêtons d'emmerder. Et moi, ça m'effraie de voir que... Je parlais tout à l'heure de la marchande de jouets de Dreux qui s'est pris un contrôle de la DGCCRF.
Et le café qui se fait fermer parce qu'il a servi
donc,
à 6h15.
Arrêtons de mettre notre intelligence, et Dieu sait s'il y en a dans notre administration, à contrôler les petits, et mettons-là à contrôler les gros et à inventer des systèmes de protection de notre économie. Nos douanes, par exemple, on pourrait très bien les mettre à pourchasser davantage la concurrence déloyale en utilisant les traités, etc., etc.
Oui, mais Olivier Marleix, il y a un autre problème qui est peut-être plus vaste, on est d'accord là-dessus, on en a parlé, mais il y a le problème, vous parlez justement des gens, le capitalisme et le libéralisme, mais il y a quelque chose dont le capitalisme s'accommode très 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 bien, c'est l'autoritarisme. Regardez le modèle chinois. Modèle chinois, c'est quoi ? C'est allez-y, les entrepreneurs, enrichissez-vous, Il y a le Parti communiste, vous ne touchez pas au Parti communiste, parti unique, et puis les autres, allez-y, il n'y a aucun problème.
Je suis d'accord avec vous, c'est une réflexion qui ne doit pas nous échapper, c'est-à-dire que
c'est un modèle.
Le monde de l'argent n'a jamais eu besoin de la démocratie. Regardez, assez proche de nous dans notre histoire, on vante souvent la période orléaniste, Philippe de Louis-Philippe, pardon, à l'époque, on a un système de suffrage censitaire. Donc voilà, c'est vrai que c'est un vrai sujet pour nos démocraties plus proches de nous. La Chine, effectivement, c'est un système capitaliste, un capitalisme particulier, un capitalisme d'État, mais qui n'a effectivement rien de libéral sur le plan politique.
Allez, on retourne au standard.
Je voudrais intervenir par rapport à ça, au modèle capitaliste, mais par rapport à la Chine et autres, mais surtout revenir sur GameStop. Au-delà d'un combat, au-delà du combat des PP et de certains anciens professionnels de la finance dont je fais partie, il faut aussi envoyer un message. C'est un message envoyé aux politiques, et vous en avez un sur le plateau. Mmh. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à GameStop est quoi ? Cette entreprise allait faire tout simplement faillite, parce que son modèle économique aujourd'hui n'était quasiment plus viable. C'est pour ça que ces requins de la finance, ces vautours, les hedge funds, ont été dessus pour essayer de la massacrer, l'acheter à bon compte. Bref, le mécanisme a été expliqué tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce combat ? Eh bien, le cours donc a monté. Résultat, GameStop s'est retrouvé avec une capacité, une trésorerie qu'elle n'avait pas pour pouvoir se réinventer, ne plus faire faillite et sauver ses emplois. Donc aujourd'hui, c'est aussi une réflexion que les politiques doivent avoir sur la régulation de ces hedge funds, mais de manière forte et déterminée. Ouais. Parce que si les particuliers que nous sommes capables, de manière épisodique, de contrer ce genre de pratiques pour sauver des emplois, sauver des industries, faire en sorte que l'entrepreneuriat continue à exister dans notre monde, il faut que les politiques aient du courage. Courage de réglementer la finance, courage de la réglementer. Et juste une petite chose, en 2008 et 2010, un décret qui est l'IAS 39, peut-être qu'Olivier Marleix le sait, qui a été promulgué par le ministre du budget de l'époque, qui est Jean-François Copé, qui a été fait pour sauver les banques, mais qui a été depuis travesti par le code monétaire et financier international, permettait de sortir les actifs toxiques du bilan de toutes ces banques. C'est anti-républicain, si on va par là. Parce qu'aucune autre entreprise en France n'avait le droit de sortir de ces bilans ces actifs toxiques. Je répète, ce décret, c'est l'IAS 39.
Uniquement sur les banques. Uniquement les banques avaient le droit,
oui,
c'est ça.
Oui, oui. Et c'était complètement illégal, quelque part. Mais c'était pour sauver les banques. Donc, à la rigueur, il a eu ce courage, Jean-François Copé. Il a eu ce courage de le faire. Aujourd'hui, eh bien, il faudrait peut-être revenir sur cet IAS 39, le modifier, mais mettre des règles beaucoup plus strictes sur cette spéculation, ces ventes à découvert, qui sont honteuses et qui auraient pu faire pour GameStop, et là pour d'autres, puisqu'il y a d'autres combats, je ne vais pas vous les dire à l'antenne, mais il y a d'autres actions qu'on va mener, notamment celle sur l'argent actuellement, qui est très forte, parce que le cours de l'argent est en train de monter, et que qui gagnera les PP et le hedge fund, vous verrez, mais juste pour terminer, un petit message au hedge fund qui pourrait nous écouter, dites-vous que nous aussi, on sait allumer des contre-feux, pour qu'il détourne l'attention, pour qu'on puisse frapper ailleurs.
D'accord.
Mais il faut que les politiques réagissent vite.
Tenez-nous au courant, en tout cas.
Voilà. Et je soutiens ce que vient de dire Olivier Marleix depuis le début dans votre émission. Je trouve que c'est très courageux ce qu'il a dit.
Merci. C'est bien. Ce que veut dire Frédéric, sur le fond, il a évidemment parfaitement raison. Il y a cet enjeu de la régulation. Je vais juste ajouter deux observations. C'est que, on est sur des sujets qui sont quand même de plus en plus compliqués, de plus en plus techniques. On s'en rend bien compte. Parce que ça nous échappe, c'est mondial. Ouais. C'est pas que on s'en rend bien compte que face au hedge fund, c'est pas uniquement ce que vous faites dans votre pays qui compte. Il y a tellement de moyens aujourd'hui de contourner, d'impacter. Donc cette régulation, elle doit être européenne, elle doit être mondiale. Donc c'est un combat qui est techniquement compliqué. Et deux, il y a une vraie question de courage, de courage politique face à tout ça. Une fois que vous avez conscience des problèmes, que vous savez les nommer, les identifier, il faut oser se confronter par rapport à ces lobbies qui sont assez puissants. Vous savez, par exemple, en Grande-Bretagne, Michel Barnier en témoigne d'ailleurs. Vous avez le monde de la finance a joué un drôle de jeu pour plutôt favoriser le Brexit. Donc il y a eu une espèce d'alliance avec des gens qui souffraient de la misère liée à la concurrence mondiale, etc. Mais aidés par des financiers qui voulaient pouvoir retrouver une grande liberté et échapper à la régulation européenne.
Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric, pour toutes ces questions. Et merci à tous. Continuez de nous appeler. On vous attend 0826-300-300.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
André Berkoff, dans tous ses états, bien sûr. Olivier Marleix, je ne sais pas. Et vous, en tout cas, vous aussi, vous nous appelez au 0826-300-300. On donne la parole à Claude qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Claude.
Oui, bonjour Claude. Bonjour André Berkoff, bonjour Olivier Marleix. Voilà, je voudrais d'abord dire, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Olivier Marleix et j'apprécie beaucoup ses positions. Mais je voulais revenir un tout petit peu sur la partie Anne de Bréjat, c'est le prix de l'électricité. Oui, mais il y a quand même un lien entre les deux, parce que quand Olivier Marleix souligne que tout le secteur industriel s'en va et que etc. Je voudrais dire que il va y avoir bientôt, et sous la pression de la Commission européenne, il va y avoir bientôt peut-être la mise en concurrence des concessions hydrauliques françaises, ce qui est proprement scandaleux. L'idée que demain, éventuellement, puisse répondre à une soumission et gagner cette soumission un étranger pour gérer les barrages hydrauliques électriques français, quoi. Ça, c'est complètement aberrant. Mais c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est pour dire que dans ce qu'a dit Anne de Bréjas, il y a 80% de vrai, il y a 20% de d'erreurs d'optique, si vous voulez. Quand elle dit que c'est le gouvernement qui fait monter exprès les prix de l'électricité pour permettre à des concurrents de se glisser dans le trou, ça, c'est pas tout à fait exact. Les prix de l'électricité, ils sont calculés par la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, dans laquelle il y a tout le monde est représenté, bien sûr, y compris l'État, mais elle fait pas ce qu'elle veut. Alors, en revanche, ce qu'il faut rappeler, c'est que la situation actuelle de l'électricité et du marché était dans l'ADN du traité de Maastricht. C'est-à-dire que ce traité a conféré à la Commission le rôle d'organiser les règles du grand marché, parce qu'il fallait que l'électricité coûte le même prix au sud de la Grèce et au nord de la Norvège, et que par conséquent seul un grand marché permettrait ça. Or, le résultat, c'est que des secteurs qui étaient organisés en monopole naturel, et ça Anne de Bréjas l'a dit, ces secteurs-là se sont trouvés complètement désorganisés pour créer une concurrence factice, et du fait de cette désorganisation, ben, quand vous désorganisez un système, les prix augmentent. Et comme la France avait les prix les plus bas, c'est sans doute chez nous que la désorganisation a fait le plus de dégâts. Ça, je crois qu'il fallait le rappeler. Et il fallait dire aussi qu'aujourd'hui, dans le facteur qui fait augmenter le prix de l'électricité pour les particuliers, il ne faut pas oublier les 30% maintenant de CSPE, cette fameuse contribution au service public de l'électricité, dont une bonne partie sert à financer l'éolien, le photovoltaïque et tous les tarifs sociaux.
Les intermittents du spectacle.
Oui, non, pas les intermittents du spectacle. Enfin, voilà. Donc, moi, je voudrais dire simplement qu'on loue encore, j'entendais il n'y a pas très longtemps, peut-être bien même sur cette radio à d'autres heures, on louait les progrès que la pensée de Friedman a fait faire par rapport à l'interventionnisme d'État de Keynes je ne sais plus quel est l'autre grand américain, mais je veux dire qu'il n'y a pas eu que Friedman, on a eu un prix Nobel qui s'appelait Maurice Allais, on a des gens qui sont des économistes de la régulation comme François Perroux, et on a des gens qui pensent l'économie en régulant, et c'est un peu, je pense, ce que sous-tend l'audit d'Olivier Marleix, et moi il me tarde qu'effectivement on sorte de cette financiarisation complète de l'économie.
Merci Claude, on va en parler de ça, de ce bilan. Oui,
on aurait dû écouter Olivier un peu Marleix. Plus Maurice Allais, d'ailleurs c'est étonnant de voir à quel point on a snobé ce que pensait Maurice Allais, qui disait des choses extrêmement justes sur le fait que l'Union européenne ne pourrait marcher, ne pourrait pas marcher dès lors qu'on avait des différences entre nos économies. Que le libre-échange, ça suppose d'être des partenaires en situation équivalente. C'est d'ailleurs à peu près aussi ce que dit la théorie, y compris néolibérale. Non, sur la question d'EDF. D'abord, il faut rappeler quand même que EDF, c'est un consensus politique national dans notre pays depuis qu'on a décidé de devenir indépendant en matière énergétique après la guerre. Il y a un consensus qui a concerné tout l'échiquier politique. Il faut pas rompre ce consensus. Il faut qu'on présente un front unique face à l'Europe. Notamment, il y a y compris dans les traités, des notions sur lesquelles on peut s'appuyer. Les traités prévoient, par exemple, de reconnaître ce qu'on appelle les services d'intérêt économique général.
Oui, mais pardon, Olivier Marleix, c'est l'Europe elle-même, enfin, d'après Anne de Bréja et d'après ce que dit Claude aussi, qui a décidé l'ouverture, en tout cas la scission,
bien sûr, c'est la Commission qui nous amène là-dessus. Alors, je pense qu'elle ne le fait pas spontanément. Elle le fait parce qu'elle a été saisie aussi qu'il y a un lobbying très important qui est fait par nos voisins qui n'ont pas cet avantage. Notamment les Allemands ont toujours été très énervés qu'on ait cet avantage de compétitivité en France qu'eux-mêmes n'ont pas. Mais ce qui est extraordinaire, il y a un très bon rapport qui a été fait, consensus politique en France, par Marie-Noëlle Battistel, qui est une députée socialiste qui a fait un barrage sur les concessions hydrauliques. Et elle a mis en évidence que finalement, on serait les seuls, si demain on fait ce que demande la Commission européenne, oui, si on ouvre nos barrages à la concurrence, on sera les seuls en Europe à le faire. Et que les Allemands eux-mêmes les gèrent en régie par les Landes et donc ils ne sont pas ouverts à la concurrence. C'est quand même un peu surprenant. Donc voilà, ça doit être un vrai sujet de bras de fer pour moi avec la Commission européenne. À nous de trouver les arguments, y compris juridiques. Le pire, c'est que j'ai vraiment le sentiment qu'en fait, en France en ce moment, le gouvernement se cache un peu derrière la Commission européenne. Mmh. Finalement, il est assez content que la Commission européenne l'oblige à mettre ça sur la place, à l'ordre du jour, parce que le projet Hercule, en réalité, il a commencé dès 2015, dès que M. Macron est arrivé au ministère de l'économie, il a demandé à ce qu'on réfléchisse à l'organisation des actifs d'EDF. Il y a toujours cette idée qu'il faut il faut faire travailler la place financière de Paris dans ce genre de mécano.
Qui domine. C'est toujours la finance qui domine, dans son esprit, son dessin.
Le projet Hercule, il est difficile de le voir autrement que d'abord comme une espèce de grand mécano fait par une fois de plus, comme un rêve de banquier d'affaires. D'un point de vue industriel, ça ne tient pas la route et c'est certainement pas le projet de l'entreprise. Donc il sort bien de quelque part. Pour moi, il sort plutôt d'une banque d'affaires que de l'entreprise.
L'entreprise,
immense. Allez, on va partir à Biarritz. Tiens, on va donner la parole à José. Bonjour José.
Oui, bonjour José.
Bonjour tout le plateau. Je voulais intervenir sur EDF en écoutant très, très attentivement tout ce qui s'est dit.
Oui.
En ce qui concerne EDF, d'une manière générale, la production d'électricité, on oublie aussi le fait que la Commission européenne, ce qui a déjà été dit, a été très très actif dans ce que moi j'appelle le démantèlement de l'EDF. En particulier, M. Juncker a obligé tous les pays européens d'échanger 10% de leur production avec les pays voisins. Alors, en ce qui concerne la France, c'est assez intéressant, par exemple, avec l'Espagne, qui est le côté où j'habite, elle est obligée, évidemment, de donner 10% de sa production à l'Espagne. Allez voir que la production est largement suffisante. Et c'est comme ça qu'elle récupère une partie de la production espagnole qui est réputée être de la production verte solaire. Donc ça permet de présenter à EDF un mix convenable. Et comme par hasard, aujourd'hui, s'il s'agit d'un projet non négligeable, d'un câble sous-marin entre Bilbao et Bordeaux pour pouvoir, satisfaire les obligations que nous donne la Commission européenne, obligations qui sont faites évidemment derrière un pupitre de PC, mais certainement pas sur le terrain.
C'est pas nouveau, oui, on est d'accord.
Et donc en particulier, tout ceci participe à ce que j'appelle la désindustrialisation de la France, dont vous avez parlé avec monsieur le député tout à l'heure.
Oui.
C'est une partie qui est non négligeable et depuis J'ai assisté à ceci, moi, quand je travaillais en Allemagne en 1990, à partir de la chute du mur de Berlin. L'idée était de dire, c'est plus la peine d'investir ni d'étudier des futurs projets, il suffit de prendre ce qu'on appelait « on the shelves », c'est-à-dire ce qui était disponible sur les étagères. Et à partir de ça, on a arrêté, à la fois dans nos entreprises, les budgets d'études et de développement à moyen et long terme.
Et ça, ça fait partie... Et on a délégué, absolument.
Mais... On a délégué, ce qui a fait partie de la désindustrialisation de la France.
Merci. Je voudrais, parce qu'on arrive un peu au terme de l'émission, je voudrais demander à l'auditeur... Olivier Marleix, qui a fait donc le bilan. Quand il y a un bilan négatif, qu'est-ce qu'on fait ? On licencie, on demande à la personne de, voilà, bah écoutez, on le remercie pour ce qu'il a fait, ou on ne le remercie pas, mais on change peut-être de poste, parce qu'en général, quand on fait un bilan, bon, on le dépose, en tout cas, et alors, quel est vraiment, si vous aviez à résumer, et à expliquer en quelques phrases, en ligne rouge, les lignes rouges de ce bilan que nous avons aujourd'hui.
En quelques phrases, c'est compliqué, mais clairement pour moi, au terme de ces quatre années de quinquennat, on est très très loin de la révolution qui nous était promise. C'était le titre du livre programme d'Emmanuel Macron. On est vraiment... dans une espèce d'accélération d'un mouvement qui lui est bien antérieur et qui a parfois concerné, faut avoir l'honnêteté de le dire, pas que la deuxième gauche, parfois aussi malheureusement aussi un peu la droite. En tout cas, on est au bout de ce système qui suppose grande ouverture au marché et derrière qu'un effet destructeur qu'on compense par de la redistribution. Donc je pense qu'il faut carrément inverser totalement la façon de penser les choses. Il y a urgence à recréer un appareil productif, à se donner les moyens de recréer de la richesse.
C'est faisable,
Olivier? Oui, c'est faisable. Un, on a plus délocalisé que les autres. On n'a pas délocalisé toujours par plaisir, on l'a fait par stratégie, malheureusement, beaucoup, de manière beaucoup moins organisée que les Allemands qui ont su profiter des pays d'Europe de l'Est à main-d'œuvre bon marché. Donc il y a des questions de compétitivité qui sont toujours sur la table, de coût du travail pour les entreprises. Il y a des moyens pour mieux protéger notre appareil de production. En clair, on est un pays du capitalisme sans capital. Donc comment on fait demain pour être capable de défendre nos entreprises face à des prédations étrangères? Moi, je pense qu'il faut d'urgence, la première mesure, c'est créer un vrai fonds souverain. On a fait un truc pas mal avec la BPI depuis quelques années. Ça avait été lancé par Sarko, poursuivi par Hollande et par Macron. Pour une fois qu'on a un peu continué un truc, c'est pas si mal que ça. Mais il faut passer à une échelle beaucoup plus importante, avoir un vrai fonds souverain. Les Français ont une épargne colossale. Vous savez que l'épargne des Français, 5 000 milliards au total, 1 800 milliards en assurance vie. Vous savez à quoi sert cette assurance vie placée à long terme? Elle sert à acheter des bons du trésor, c'est-à-dire de la dette à court terme. Quel gâchis, quelle stupidité. Proposons aux Français d'acheter un grand emprunt, enfin de placer leur argent dans un grand emprunt de soutien à notre appareil industriel, et on arrivera un peu mieux à se défendre. Voilà, il y a tout un tas de solutions que je mets sur la table dans ce livre. Je ne vais pas tout vous dire, j'en renvoie au livre. Voilà.
On est bien d'accord. Et ils le liront, les auditeurs de Sud Radio.
On va redonner tout de suite les références précises. Hein. Les Liquidateurs aux éditions Robert Laffont. Voilà, vous le trouvez dans toutes les très bonnes librairies. Merci à vous, en tout cas Olivier Marleix, je rappelle, un député LR d'Eure-et-Loire. Merci à vous tous qui nous écoutez. Vous pouvez reprendre cette émission sur YouTube et sur les podcasts de Sud Radio, sur sudradio.fr. Et puis évidemment, alors attention, demain, un sujet qui vous concerne tous, les cotisations sociales. On va parler d'URSSAF, un cancer français, avec François Taquet, qui est un avocat spécialiste de la question. Et évidemment, tout de suite, Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye. Brigitte Lahaye qui pose la question: ne faudrait-il pas régler son problème avec son père et sa mère avant de devenir parent? Voilà, la question est ouverte et vous pouvez là aussi réagir. 0826 300 300.